Merci encore d'avoir accepté cette invitation. J'ai constaté, j'ai un micro avec un fil, donc je ne peux pas vous le faire passer, mais je compte sur vous pour parler fort si vous avez des questions. Peut-être je lance peut-être la première question. Donc après avoir vu ce film, ce qui m'a énormément marqué et touché, c'est les deux aspects. D'ailleurs, je suis ravie que vous soyez là pour ça aussi. C'est le combat, la combativité de Simone Veil. Et ce travail de mémoire, ce devoir de mémoire qui traverse sa vie et qui traverse le film. Donc comme ça, je vais vous laisser la parole à tous les deux sur ces deux aspects-là. C'est vraiment un portrait de femme vraiment incroyable. Et voilà que ce travail de reconstruction, de devoir de mémoire est extrêmement important.
D'accord. Donc effectivement, c'est assez bien représenté puisque... on voit une forte inspiration de ses mémoires. En 2007, Simone Veil avait écrit Une vie, et il y a un certain nombre de passages du film qui sont emblématiques de ce qu'elle écrit à ce moment-là. Je ne vais pas prendre de très nombreux exemples, mais certains me paraissent significatifs. Il y a l'après-guerre, qui est très important, où à plusieurs reprises dans le film, elle dit « voilà, nous, les déportés raciaux, je reprends son expression, qui est aussi une expression de l'époque, on ne peut pas parler, on ne va pas nous écouter. » Et finalement, la seule avec qui elle peut échanger, c'est Milou, Madeleine, en fait, hein, sa sœur, sa compagne de déportation, et qui meurt donc au début des années 50 dans cet accident de voiture. Et c'est pour elle un vrai drame, parce que elle perd là la seule personne avec qui elle pouvait partager cette mémoire de la déportation. Il y a un autre moment qui me semble important, on le voit, c'est la fin des années 70, au moment où effectivement on est dans la transition entre d'un côté la déportation politique résistante dont les historiens, je pense ici à Henri Rousseau, disent qu'elle a pris une place très importante dans la mémoire collective, au moins jusqu'au début des années 70, et que finalement, la mémoire de ces déportés de la Shoah est plus tardive. Et effectivement, c'est en 78 qu'apparaît le mémorial de la déportation des Juifs de France, et on voit ici l'apparition de Serge Klarsfeld, les déclarations dans l'Express d'Arquier de Pellepoix, comme quoi, qui était le commissaire général aux questions juives, comme quoi à Auschwitz, on a assassiné que des poux. Et c'est tout ceci qui fait alors que Simone Veil va commencer réellement à témoigner, à prendre la parole. Et vous le voyez, elle découvre le destin singulier, ce qu'on appelle le convoi 73 de son frère et de son père, qui, contrairement à l'essentiel des convois qui sont partis depuis la France vers Auschwitz, celui-ci, le convoi 73, part en Lituanie, dans l'ancienne capitale de Lituanie, qui était Kaunas. Voilà. Et puis je dirais la dernière étape, qui est finalement évoquée de manière un peu furtive, en dehors de cette voix off tout à la fin, c'est le fait qu'à partir de 2000, et dans le prolongement du discours de Jacques Chirac en 1995, discours du Veldiv qui reconnaissait donc la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France, à partir de 2000, donc, elle devient la présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et peut-être, alors, et je m'arrêterai là, c'est en 2007, effectivement, l'autre moment important qui était essentiel dans la pensée et dans les écrits de Simone Veil, c'est le fait d'avoir poussé, plaidé pour l'entrée des Juifs de France au Panthéon. Aujourd'hui, on estime à peu près qu'il y a eu près de 4200 justes en France qui ont sauvé des juifs, fourni des faux certificats de baptême, permis de passer la frontière. Et c'est un thème important en France parce que, et Simone Veil était très sensible, c'est qu'en France, 25% des juifs ont été déportés, c'est bien sûr conséquent, mais 75% donc ne l'ont pas été. Voilà. Et pour aller très vite ce soir, l'une des raisons majeures, c'est l'action, ou ce sont les actions de solidarité en France qui ont été importantes, et c'est la raison pour laquelle le 18 janvier 2007, les justes, sous l'impulsion de Simone Veil et de Jacques Chirac, entre panthéons. Voilà, et c'est des choses donc que l'on repère plutôt bien dans le film.
Sur le portrait de cette femme, sa combativité, tous les combats qu'elle a menés.
Et bon, déjà, on a eu un portrait assez conséquent ce soir. Donc, sur la question de la mémoire, je voudrais rebondir quand même sur la question de la mémoire, parce que c'est un sujet qui est très fort en général sur la question des droits des femmes. C'est la mémoire de l'histoire des femmes qui est souvent complètement gommée. On n'a souvent pas d'archives. Les archives nationales, chaque année, rappellent qu'il faudrait qu'on arrête d'envoyer les photos des grands-pères, par exemple. Toutes les photos des grands-pères qui ont fait la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, en disant mais maintenant on en a marre des képis, en fait. L'histoire, c'est pas uniquement la guerre, justement, c'est aussi toute l'histoire des femmes. Et cette histoire-là, elle est gommée, notamment parce que il y a globalement en fait une minimisation qui est faite de l'histoire des femmes en général, mais aussi de leur place dans la guerre, et notamment dans la guerre, dans tout ce qui s'est passé au XXe siècle, dans tous ces génocides du XXe siècle, la place des femmes dans les génocides arméniens, dans les génocides rwandais, dans la Shoah, et en fait cette place, parce que souvent dans la recherche qui est faite, au final, il n'y a pas eu de place pour ce récit-là, à la fois parce qu'on ne l'a pas écouté, et aussi parce que ces personnes-là, quand elles reviennent, soit elles se retrouvent confrontées à un entourage qui ne peut pas l'entendre, qui ne peut pas écouter, soit parce qu'aussi elles se disent, mais je dois, maintenant il faut que je reprenne une vie normale, il faut vite faire les choses qu'on doit faire en tant que femme, reprendre une vie normale, et donc se marier, et donc faire des enfants, et donc avoir un travail. Et donc derrière tout le travail qu'a fait Simone Veil, il y a ce travail de mémoire, et du coup il y a vraiment ce sujet qui fait que c'est une icône féministe, au-delà de son travail pour l'interruption volontaire de grossesse, c'est la question de la mémoire et donc de la gratitude, notamment quand elle remercie Louise Weiss. Voilà, elle est dans ce travail de gratitude. Quelle est la génération qui, avant moi, a fait quelque chose? C'est quelqu'un d'assez incroyable, Louise Weiss. Et on le voit dans le film, mais c'était encore beaucoup plus fort, je pense, dans sa vie, tout au long de sa vie, chez Simone Veil, la notion de sororité, la mémoire, en fait, des femmes collectivement. On le voit beaucoup dans les camps, dans la manière dont elles survivent, mais aussi dans la manière dont elle a construit aussi sa vie politique. Là, on voit beaucoup le rapport à son mari, à sa famille. Est-ce qu'elle arrive à obtenir, justement, en disant « je ne suis pas une femme, je suis une magistrate », tout ça. Mais en fait, elle a ouvert la voie et elle a construit une mémoire et elle a construit, en fait, vraiment des passerelles dans le passé et vraiment construit quelque chose qui fait que c'est de la gratitude qu'on ressent. Et je sais que nous, le jour de sa mort, avec notre association, c'est notre association qui a lancé le rassemblement en mémoire de sa mort, parce qu'on disait, en fait, je pense que peu de gens reçoivent autant de gratitude. Il y a Gisèle Halimi qui reçoit aussi une gratitude assez similaire. C'est des personnes qu'on n'a pas forcément connues. C'est-à-dire, moi, j'étais pas née quand l'avortement, les procès de Bobigny, la loi sur l'IVG, moi, j'étais pas née. Mais on a vraiment ancré dans notre mémoire, dans notre chair un peu, cette construction qu'elles ont pu lancer, ce mouvement qu'elles ont lancé, souvent de façon assez tranquille, c'est-à-dire que quelqu'un comme Simone Veil, dans le film, on la voit un peu plus bras tendu dans ses discours, tout ça. Dans la réalité, ses discours étaient un peu moins bras tendu. D'ailleurs, c'était justement pour ça qu'on lui avait confié le dossier, d'ailleurs, de la loi sur l'avortement, parce qu'on s'est dit, ça passera peut-être un peu mieux si elle, si c'est pas un tribun. Donc c'était pas un tribun, c'était vraiment la force tranquille, genre l'eau qui coule et qui fait tout tomber sur son passage. Et c'est ce qui fait en fait la beauté de ce personnage, en fait, qui fait un vrai rouleau compresseur, et qui, il y a un moment qui porte aussi la question des droits des femmes et la question de la mémoire dans la construction européenne. Et donc je trouve ça assez phénoménal que ce film sorte maintenant où la guerre frappe aux portes de l'Europe, enfin les portes, c'est pas tout à fait les portes, et l'avortement est une vraie menace et en Europe et dans le monde.
Enchaîner gentiment. Oui, vous parliez du... Pardon, j'ai perdu le fil. J'ai plus ma question en tête. J'étais tellement sûre que quelqu'un allait vouloir dire quelque chose. J'ai pas pris mes notes en plus.
J'ai des trucs qui vous intéressent, je sais pas. Un truc que je trouve qui est assez chouette dans... un truc qui est hyper important qui est aujourd'hui... gardée par les femmes aujourd'hui, notamment, c'est la posture de Simone Veil. Oui, je disais, un truc qui est hyper important aujourd'hui pour les femmes d'aujourd'hui, c'est la posture physique de Simone Veil. On ne le voit pas trop dans le film, mais c'était quelqu'un qui se tenait toujours très droit, Et en fait, elle fait partie de ces premières femmes en politique. Et souvent, quand vous regardez les photos des premières femmes en politique, et même des femmes aujourd'hui en politique, elles ont souvent les bras croisés. Elles sont sur le côté, elles ont les mains sur... Enfin, elles se cachent derrière leur sac à main. Et Simone Veil, c'était quelqu'un qui était droite. Elle pouvait se tenir droite. Il n'y avait aucun problème. Vous la plantiez dans le sol. C'était comme un arbre avec des racines. Et elle disait, mais ce que j'ai vécu quand j'avais 16 ans était tellement fort que je sais que je n'aurais plus jamais peur. Donc pourquoi j'aurais peur d'un appareil photo? Pourquoi, en fait, j'aurais besoin d'artifice pour cacher mon corps et cacher ce que je ressens? Et cette force qu'elle avait est encore aujourd'hui un modèle, parce que c'est quelque chose, avec notre association Georgette Sand, quand on fait des ateliers sur la confiance en soi, sur la négociation de contrats ou autre, on cite Simone Veil en disant, mais vous savez, quand on n'a pas peur, on ne gigote pas. Faites comme Simone, parce que Simone, c'est elle qui nous apprend à ne pas avoir peur. Voilà, je trouve que c'est hyper important de dire qu'elle sert de modèle au-delà de tout ce qu'elle a pu avoir comme combat, même dans sa posture. Elle reste un modèle.
Oui, c'est vrai que moi, je connaissais pas du tout la magistrate qu'elle a été. Je le savais, mais pas. Enfin, c'est hyper intéressant de voir à quel point déjà c'est la première à avoir été présidente de l'association de la magistrature, s'il me semble. Donc ça, c'est vrai que c'est assez incroyable. Et moi aussi, ce qui m'a pareil, je ne savais pas, c'est tout le rôle qu'elle a joué aussi par rapport à pour l'amélioration des conditions de vie des détenus. En Algérie, ça c'est vraiment. Je trouve que dans sa vie, on revient toujours en fait sur les mêmes choses, la dignité humaine, le fait de, même si on est prisonnier, on a quand même des droits, on a quand même. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment admirable chez Simone Veil.
Ah oui, complètement. Et je trouve, c'est ce que je disais dans le propos introductif, c'est quelque chose qui est très bien repris par Olivier Dahan. C'est lui qui a fait les recherches vraiment sur le film. Et cette partie-là, notamment la question des combattants du FLN au moment de la guerre d'Algérie, les questions liées à leurs conditions de détention, c'était peut-être un point sur lequel on s'attendait moins à ce qu'il apparaisse aussi fortement. Mais vous l'avez très bien dit, le point commun, c'est cette idée de l'enfermement, de la détention, de l'arbitraire, même si les choses ne sont pas identiques historiquement, mais c'est ce qui touche Simone Veil, cette question, vous l'avez dit, de la dignité, c'est-à-dire que si elle insiste autant sur ce terme et cette posture toujours courageuse, on le voit, où elle parle, je cite, donc des de Jean-Marie Le Pen à ce moment-là qui viennent perturber son meeting, elle reste droite et elle dit j'affronterai, et elle a l'assemblée de 74 est une assemblée qui est quasiment exclusivement masculine. Donc porter ce projet sur la question de l'IVG, c'était un projet et une posture qui était d'un grand courage. Voilà. Et elle l'a porté jusqu'au bout, tout en sachant que si elle avait pu avoir le soutien à l'époque du président de la République et du Premier ministre, le vote était loin d'être acquis.
Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur la question de l'IVG, ce qui est assez intéressant, pardon, je reparle plus fort, ce qui est intéressant sur la question de l'IVG aussi, c'est que Simone Veil, aujourd'hui, est donc une icône féministe des droits des femmes, pour l'IVG, notamment, pas que, donc aussi sur la question des prisonnières, mais bien sûr sur l'IVG. Mais ce qui est assez intéressant, si vous relisez aujourd'hui les archives de l'époque, c'est que l'argument, ce n'est pas du tout les droits des femmes. Contrairement d'ailleurs à Gisèle Halimi, qui était beaucoup plus dans cette démarche-là. À l'époque, sa démarche, c'est la santé. Les femmes meurent, et donc ça, c'est un énorme problème, parce que la dignité des femmes est menacée, la dignité, mais surtout la santé. Et donc, du coup, c'est un projet de santé publique. Et donc, elle fait passer un projet qui modifie complètement les conditions de santé et notamment les risques sur la santé. Mais en fait, elle n'utilise jamais cette notion de le droit à disposer de son corps ou vraiment tous les arguments qui, à l'époque, étaient hyper importants. Elle ne les utilise pas. Elle utilise vraiment des arguments qui, à l'époque, permettent de faire vaciller l'opposition. L'opposition qui est de son côté, d'ailleurs, en fait. Et c'est comme ça qu'elle arrive à obtenir justice. Et c'est aussi une leçon entre nous de politique, parce qu'à un moment, elle le dit, qu'elle n'est pas politicienne, tout ça. Mais elle a quand même bien compris comment ça marchait, et que elle reste droite dans ses bottes et elle arrive à obtenir comme ça quelque chose qui est d'aussi fondamental.
Je vous rejoins, mais totalement sur son, on va dire son tempérament, parce que c'est vraiment ce que l'on voit dès sa jeunesse. Il y a un passage qui est très intéressant et qui est essentiel dans la construction future, de la vie de Simone Veil. C'est le moment, on le voit, où son père part se faire recenser. Vous voyez, et à ce moment-là, elle lui dit, ce qui est assez rare à l'époque, parce que bon, c'est une référence au statut des Juifs du 3 octobre 40, où les Juifs doivent aller. Il y a l'exclusion des Juifs, et son père est exclu parce que parmi les professions, c'est pas toutes les professions, mais parmi les professions, ce sont les professions libérales. Et puis un peu plus tard, les Juifs doivent aller se faire recenser. Et beaucoup de Juifs se sont fait recenser. Vous savez que ce sont ces recensements, ce fameux, alors je mets des guillemets, mais c'est comme ça qu'il a été nommé, c'est ce fichier juif qui servira notamment au moment de la rafle du Veldiv en 42, parce qu'on aura le nom, le prénom, les adresses, etc. Et c'est partout la même chose en France, sachant que la famille de Simone Veil est à Nice. Et elle lui dit, n'y va pas, parce qu'on va être piégé. Oui, et son père accepte mal déjà ce alors qui est d'une grande sensibilité, mais aussi d'une grande fermeté quand sa décision est prise. Voilà. Et c'est un, on va dire, c'est une forme de ligne de conduite que l'on retrouve chez Simone Veil.
Et qui d'ailleurs va l'amener à créer des garde-fous à l'échelle européenne, puisque l'Europe en fait contrôle aussi les libertés publiques et quand même les institutions européennes aujourd'hui peuvent condamner la France pour tout ce qui est restriction de liberté publique, et les libertés fondamentales sont contrôlées, enfin contrôlées, non, c'est pas le bon mot, sont surveillées par l'Europe. Et c'est aussi intéressant parce que beaucoup de gens à un moment ont dit, mais pourquoi Simone Veil, elle part à l'Europe? Parce que oui, ça peut paraître logique, et en finalement elle avait quand même une grande carrière en France, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Mais en fait là-bas, elle va protéger la France aussi, en construisant une Europe qui protège les gens, qui surveille les libertés fondamentales, qui contrôle les libertés publiques, en créant des commissions pour les droits des femmes, là encore, et en construisant en effet ce qui est aujourd'hui un des plus grands remparts pour la paix, même si on voit ses limites, bien évidemment.
Vous avez... Ah oui, allez-y, madame. Le doute, alors, qui est posé à la fin du film, il ne porte pas, me semble-t-il, sur la question... Enfin, ce n'est pas le moment qui a été retenu. Ce qui a été retenu, c'est la question, et qui est très importante dans les discours de Simone Veil à partir de 2005. Vous savez que tous les 27 janvier, d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle revient en 2005 à Auschwitz avec Jacques Chirac et sa famille. C'est parce que donc, c'est le 60e anniversaire de la découverte d'Auschwitz par les troupes soviétiques. Et chaque année, elle fait un discours pour rappeler cet événement. Et sa préoccupation, effectivement, sur la fin de sa vie, je pense que c'est la raison pour laquelle le réalisateur l'a retenue, c'est la question de la concurrence des mémoires et la question de l'antisémitisme. Voilà, clairement... Il y a énormément de déclarations de Simone Veil qui s'étonne, après tant d'années, après tant de travail éducatif, après son engagement pour la réconciliation européenne, qu'on puisse encore se retrouver confronté à des cimetières vandalisés, à des croix gammées, à des personnes assassinées en France parce que juives. Et ça, ça fait vraiment partie d'une préoccupation importante. Et dans ces discours, effectivement, et ça, ça serait intéressant d'en discuter, quand elle parle de concurrence des mémoires, elle le dit, elle pense qu'effectivement, chaque mémoire est légitime, a toute sa place, en termes de revendications, de demandes, de réparations, ce qui s'est passé notamment dans le cadre de la Shoah en France. Mais ce qu'elle déplore en fait à ce moment-là, c'est que cette concurrence vienne à banaliser, je ne parle même pas de nier, mais à banaliser, selon elle, ce qu'a été la Shoah. Et je pense que c'est la raison pour laquelle partie-là qui est retenue à la fin du film et qui, je crois, est une vraie préoccupation chez elle, mais vous le rappeliez, la question des menaces sur l'avortement notamment sont aussi des menaces encore importantes.
Avec aussi la question de, on ne l'a peut-être pas beaucoup vu dans le film, le fait qu'elle peut voter à droite comme elle peut voter à gauche. Bon, il y a quelque chose d'assez centriste dans son approche, mais clairement, dans les années 80-90, quand il y a des rapprochements avec le Front National, les Pasqua par exemple, qui vont dire « oui, on a des trucs en commun à dire », elle dit « non, mais non, en fait, il y a un moment, il n'y a pas tergiversé, on ne peut pas s'allier avec le Rassemblement, enfin, le Front National ». Ce n'est pas possible en fait. Ça voudrait dire aussi banaliser ce qui s'est passé de la part de gens qui ont banalisé ce qui s'est passé. Et ça, là-dessus, c'est un chemin qu'elle a tracé, qui est aussi une mémoire pour un parti où au final, elle n'était pas forcément une des plus grandes figures de son parti, mais c'est quand même aujourd'hui un chemin qu'elle a tracé en interne et que beaucoup de gens suivent en disant mais enfin, n'oublions pas quand même que cette banalisation, la banalisation du mal, c'est après la porte ouverte à la reproduction de celui-ci.
Oui, c'est vrai que ce film, vous le disiez aussi, ça résonne dans nos actualités. Vous le disiez, le droit à l'avortement qui a complètement été fait 4 pas en arrière aux États-Unis, les montées d'extrême droite dans pas mal de pays. Je trouve que ce film, comme vous disiez, il tombe à pic. Et c'est vrai que, à la fin du film, là, je me suis posé la question de. C'est un peu naïf et un peu bête, mais si Simone Veil avait encore été vivante, quel propos elle aurait pu tenir, quelle aurait été, peut-être, est-ce qu'elle aurait eu des prises de position sur ces sujets qui l'ont tellement porté toute sa vie. Voilà, c'était un peu une interrogation que j'avais elle a donné tellement sur, vous parlez de la construction européenne, c'est vrai que ça ça m'a manqué un peu dans le film, c'était pas assez c'était à des petits moments un peu décousus comme ça, mais parce que clairement on sent l'aboutissement en fait de toute une vie de combat en France qui ensuite arrive sur un niveau encore supérieur, beaucoup plus vaste, et c'est assez incroyable.
Ce qu'on peut dire, c'est que bon, on le voit au moment de l'IVG, elle est attaquée, mais les arguments qui sont donnés sont des arguments qui se situent dans le champ lexical génocidaire. C'est-à-dire, c'est très dur pour elle. Hein. C'est-à-dire que ce qu'elle entend, c'est que finalement, elle est en train de faire voter une loi qui rappelle ce qu'a été le génocide des Juifs pendant la guerre. Donc, dire ça... Alors, il y avait une très belle exposition réalisée par la mairie de Paris il y a quelques temps autour de Simone Veil, et on a... les reproductions des courriers qu'elle reçoit, là, qu'elle lit, on voit dans le film, et elle est totalement bouleversée de lire des choses comme ça. Mais au-delà de ces groupes qui vont l'attaquer, qu'on pourrait classer aisément à l'extrême droite, son combat, je pense que c'est un combat, elle le dit dans le film, enfin c'est rapidement évoqué, c'est un combat contre toute forme de pensée ou de régime totalitaire. C'est-à-dire que cette idée que dans le spectre politique, on ne peut pas faire de conciliation avec les extrêmes. Alors bien sûr que la question de l'extrême droite, compte tenu de ce qui s'est passé pour elle, elle est centrale, mais de manière générale, c'est quelqu'un qui se situe dans un champ politique libéral, pour aller vite, voilà, et que donc son rejet, on ne va pas parler pour elle ce soir, on n'aura pas cette prétention évidemment, mais disons quand on observe son parcours, son rejet, c'est vraiment cette idée que tous ces régimes du XXe siècle, elle le dit à la fin, je me suis réconcilié avec l'Europe parce que j'ai participé à la construction européenne. Or, l'Europe du XXe siècle, c'est une Europe des régimes totalitaires. Voilà. Et c'est ce qu'elle ne voulait plus, et je pense que ça, ça fait partie de ces combats.
Je pense que Simone Veil, pour avoir vécu longtemps, se doutait bien que de toute façon la roue tourne et jamais forcément dans le bon sens. Donc potentiellement, il y a toujours un moment où l'horreur revient, peut revenir. Il y a cette phrase d'une autre Simone de Beauvoir, tristement célèbre, qui dit à un moment, ne doutez jamais que vos droits soient acquis. En fait, vous devez être vigilante pour les droits des femmes. Votre vie dépend parce qu'il suffit d'une crise économique, sociale, politique pour que vos droits chèrement acquis soient remis en question. Et c'est ça l'histoire des droits des femmes, c'est ça l'histoire de la construction européenne, c'est ça l'histoire de la mémoire. C'est qu'on l'a construit pendant des décennies et en fait elle part en un claquement de main. À un moment elle dit dans le film, mais voilà, la mémoire va rester, il y aura suffisamment de documentation. Mais on n'est jamais à l'abri. On numérise tout, demande plus d'électricité, on n'a plus les archives, on nous enlève nos bouquins. Enfin, et à un moment quand on travaille sur les questions d'histoire, notamment de vol de l'histoire, de vol de la mémoire, de récit, de l'histoire, l'histoire et le récit d'histoire qui en est fait, on se rend compte qu'il y a des pans entiers d'histoire qui ont pu disparaître. On a perdu le système solaire pendant 10 siècles. Il faut rester hyper humble sur la capacité qu'on a en fait, à protéger ce qu'on arrive à acquérir et voilà, ce qu'on construit pendant des années, voilà, la mémoire, la protection. Il y a un moment où ça finit par disparaître. Et je pense aussi que ce travail qu'elle fait, si c'est un autre sujet que je pense qu'elle a, c'est qu'elle est précise. Elle utilise des mots. Et quand elle dit justement la banalisation, il y a aussi cette question du vocabulaire aujourd'hui. Dès qu'on veut aujourd'hui dire que quelque chose est très grave, la banalisation, c'est aussi d'utiliser le point Godwin. On Godwin en permanence. Vous connaissez le point Godwin, c'est le fait voilà, de systématiquement renvoyer au nazisme, aux nazis, à la Shoah, dès qu'il y a un sujet. Et c'est la question, moi j'ai travaillé 10 ans en ONG droits humains, où tout de suite les gens vous parlent de génocide, et en fait, et en effet, il y a ce truc-là hyper frileux des ONG qui disent toujours, bah non, mais on peut pas, on n'est pas là, on n'a pas pu voir rentrer, les frontières sont fermées, et au moins on peut pas crier au génocide en permanence. Et en fait, ce travail qu'elle a fait aussi, c'est nommer les choses. Et au moment où on parle de droit à la santé, on parle de santé, on parle de génocide, on parle de génocide. Et elle a essayé de créer en fait tout un nuancier des violences, et ce travail-là qu'elle a fait, en fait, permet aussi de construire. L'absence de violence, il permet de désamorcer le conflit en utilisant le vocabulaire qu'il faut. Et c'est ça aussi qui est très fort en fait dans ce film, c'est de voir en fait que sa rigueur, c'est celle qui en fait permet de mettre à plat la rigueur aussi intellectuelle, la rigueur morale, la rigueur juridique, qui permet de mettre à plat.
Oui, c'est sûr que c'est des... Enfin là, comme ça, 2h20 d'une vie aussi riche et avec des... enfin, tellement de douleurs, c'est vrai que c'est très émouvant. Ouais, mais bon, je me répète, mais moi, vraiment, cette femme, elle m'impressionne énormément. Et Daon a réussi, je pense, un beau film. C'est même... Enfin, je trouve ça toujours intéressant aussi d'utiliser ça au cinéma, c'est le... Bah, de pas avoir un récit linéaire, quoi. Enfin, moi, je trouve ça hyper ennuyant. Et là, le fait... Alors, parfois, c'est un peu déroutant parce que, bon, ça saute un peu vite. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'il y a quand même des différents fils qui sont tissés. Enfin, c'est quand même... On sent qu'il y a quand même des sujets qui sont abordés un peu les uns après les autres, mais il y a toujours quand même des choses qui... Enfin, je trouve que vraiment, le montage, il est hyper intéressant, je trouve, sur...
Ah oui, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai que c'était... C'était pas évident de faire un film sur Simone Veil de manière générale, mais le choix du réalisateur est vraiment intéressant, de ses allers-retours dans le passé, en fait, d'avoir choisi de pas avoir choisi un récit diachronique, mais vraiment d'avoir choisi comme ça des sujets, des thèmes, des moments, et puis je trouve que ça rend le film dynamique et surtout, d'abord ça nous donne cette idée d'un voyage dans le siècle complètement. Et puis cette idée de combat qu'elle a mené, un combat pour elle-même, pour sa famille, dans des conditions épouvantables, et puis après les autres combats qu'elle a pu mener en tant que magistrate, en tant que ministre. Et je trouve que c'est plutôt bien pensé, et ça donne un film intéressant en termes d'échanges et de discussions justement.
Et c'est un film aussi qui est saupoudré de beaucoup d'amour et de douceur avec tous les passages qu'elle a avec sa famille, les souvenirs qu'elle chérit aussi des membres de sa famille. Donc ça, pareil, je trouve que dans la construction du film, c'est bien dosé, ce mélange entre la femme publique qu'elle était, la femme privée qu'elle a été, les souvenirs qu'elle avait, la relation avec ses sœurs aussi. Ça m'a assez étonnée qu'on voit si peu Denise aussi, cette sœur résistante.
Parce que la relation a été très très dure avec Denise. Et justement, après-guerre, celle qui assiste aux cérémonies, celle qui est mise en valeur, c'est Denise. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié, parce qu'ensuite, Simone Veil devient une figure iconique. Mais quand il s'agit de mettre en avant ce que certains ont appelé le mythe résistantialiste, c'est Denise qui est tout le temps mise en avant. Et ça a créé pas mal de tensions entre elles, en fait. Hein. Surtout avec la mort de Milou, elle se retrouve un petit peu seule et elle ne trouve pas en Denise cette sœur qui pourrait l'aider à surmonter ce qu'elle a vécu. Et ce n'est que plus tard, finalement, une forme de réconciliation de ses mémoires de la déportation, pour aller vite, que ces deux sœurs vont se retrouver et de nouveau être ensemble. Voilà. Mais ça a été plus long parce que Denise a fait un autre choix qui a été, a fait ce choix très rapidement, qui a été celui d'entrer en résistance et d'être déportée comme de très très nombreuses femmes à Ravensbrück. Voilà. Et donc c'est pas du tout la même nature de déportation pour cette sœur et puis le reste de la famille.
Oui, puis il y a aussi vous l'avez abordé aussi, le fait qu'après-guerre, il y avait aussi la figure de du résistant ou de la résistante.
Exactement.
Était beaucoup plus mise en avant, beaucoup
Exactement.
Plus valorisée que on voulait pas trop entendre parler de l'aurore des camps, et du coup c'était des discours qui n'étaient pas trop entendus ni écoutés.
Peu de femmes qui étaient mises en avant à ce moment-là, vraiment beaucoup de femmes, il y avait beaucoup de très jeunes femmes qui avaient résisté, et donc celles-ci ont vraiment eu cette démarche de rentrer dans le moule, et donc elles ne sont pas allées forcément s'enregistrer comme résistantes, elles ne sont pas allées aux remises des... Enfin, voilà, elles ne se sont pas forcément fait reçu des médailles, aller au Mont-Valérien, tout ça. Elles ont vraiment beaucoup fait le choix de faire le dos rond et de rentrer dans la vie civile, ce qui n'était pas le cas de Denise.
Ce qui est le cas, c'est intéressant ce que vous dites du cas de la femme du colonel Roll Tanguy, justement, qui dit que même s'il y a des actions de résistance très fortes, son parcours a été totalement effacé par celui de son mari, et qui est évidemment admirable. La question n'est pas là, mais ce combat de femme qui était tout autant admirable, lui, n'est pas du tout mis en valeur. Et il faut attendre le mi-temps des années, je crois que c'est donc en 2015, des années 2010, pour que deux femmes résistantes entrent au Panthéon. Et ça a été quand même très long, la mise en avant du rôle des femmes en résistance. Et donc c'était Geneviève Antonos de Gaulle et Germaine Tillion. Et donc on parlait du fait qu'il y avait une invisibilisation des femmes, mais dans le domaine de la résistance, ça a été particulièrement conséquent.
Et d'ailleurs, dans le livre là, qu'on a amené ce soir, donc Une vue n'est connue, il y a Bertie Albrecht, justement, qui a été tuée pendant la guerre, qui était résistante, qui était la compagne 2. Mais aujourd'hui, dont on se rend compte que ce n'était pas uniquement la campagne 2. Il y a aussi Elisabeth Haydenbenz, qui est l'équivalent de Schindler, on va dire, en France, qui était une jeune femme suisse, une institutrice, qui a monté une maternité et qui a sauvé plus de 500 enfants, donc 17 nationalités sur la frontière espagnole, et qui, à 25 ans, arrivait à obtenir de la Gestapo, qui venait dans la maternité, arrivait à leur faire croire qu'en fait, elle était suisse, donc ça avait le statut d'ambassade, et qu'il fallait aller chercher des sauf-conduits à la Gestapo locale pour pouvoir rentrer. Et pendant qu'ils allaient, ils arrivaient à la croire, et pendant qu'ils allaient les chercher, elle faisait partir toutes les familles dans les champs derrière. Et toutes ces histoires-là, en fait, on ne les connaît pas. Toutes ces femmes qui ont fait ça, on ne les connaît pas, et elles ne sont souvent pas recensées.
Et peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre livre que vous pouvez acheter là-haut.
Oui, donc du coup c'est un ouvrage collectif que nous avons écrit donc avec notre association qui travaille sur l'invisibilisation des femmes, c'est-à-dire que le mot invisibilisation, c'est un mot qui n'existait pas en 2015 quand on lance nos campagnes sur l'invisibilisation. C'est un mot anglais parce que ça fait très longtemps qu'on réfléchit à qu'est-ce qui fait disparaître des groupes en tant que groupe, qu'est-ce qui fait qu'à un moment il y a une sorte d'appropriation de la mémoire, des archives, qui fait que certaines catégories de la population, et notamment les femmes, disparaissent. Et donc du coup on a sélectionné 75 femmes qui, à toutes les époques, sur tous les continents, devraient être connues, qu'on ne connaît pas. On a pris quelques stars qu'on connaît, en montrant que oui, vous les connaissez, mais en fait, on ne les connaît pas si bien. Genre Joséphine Baker, dont on ne connaît pas justement le travail de résistante, ou George Sand. En général, quand je demande aux gens, vous connaissez George Sand, on me cite tous ses amants. Mais alors, par contre, me citer trois bouquins, ça va être plus compliqué. Ou son apport pour la démocratie, l'éducation, la République, tout ça, en général, ça passe à... Et en fait, on explique comment elles ont disparu. Et en fait, c'est hyper important de comprendre. Donc, ce livre, en fait, est une typologie de l'invisibilisation. On a fait une cartographie de l'invisibilisation. Le rôle de l'État, le rôle de l'Église, de la famille, des disciples, du conjoint, les archives, l'autocensure, enfin, la sexualité, tout ce que vous voulez. Et en gros, ce qui est important, c'est de comprendre à quel point aujourd'hui, comprendre ce qui s'est passé avec des femmes il y a 5 siècles ou il y a 2500 ans. Ce qui a fait qu'elles ont disparu de nos mémoires, de nos manuels scolaires et des noms de nos rues, c'est ce qui nous arrive aussi aujourd'hui. Et donc ce livre-là, il sert aussi de support dans les collèges. On est distribué dans beaucoup, beaucoup de collèges. Et on s'en sert pour lutter contre les stéréotypes, pour lutter contre le harcèlement, pour lutter contre les stéréotypes basiques qu'on va retrouver systématiquement dans la société encore aujourd'hui et aussi dans les cours d'école, notamment la présomption d'incompétence, la sexualisation, la diabolisation. Et donc c'est un outil formidable pour non seulement connaître son passé, et donc faire preuve de gratitude vis-à-vis de son passé, pour faire un vrai travail de mémoire, mais aussi pour avoir les clés pour aujourd'hui ne pas être invisibilisé au quotidien.
À partir de quel âge le livre ?
10 ans. Alors, en tout cas, il y en a de 10 ans qui le lisent. Donc,
Très bien.
Voilà, pour vos ados,
très bel ouvrage, enfants. Très bel ouvrage.
S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on s'arrête là. Merci encore à vous deux
merci
d'avoir
vous.
Été présents, présentes. Et merci beaucoup à vous et parlez du film autour de vous et à très bientôt.